19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et vous êtes de plus en plus nombreux et ça ne peut que nous réjouir. Allez, c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission de 19h à 20h. Nous commençons par une série d'interviews parce que nous allons nous intéresser, vous savez quoi, tout simplement, à l'aumônerie, parce que c'est très important aujourd'hui. La laïcité, rien que la laïcité, toute la laïcité. C'est comme ça, évidemment, que cela commencera, évidemment, concernant donc l'aumônerie au sein des écoles scolaires, hein, puisqu'il faut qu'on en parle. C'est un sujet évidemment qui concerne beaucoup d'entre vous. Ce sera l'interview avec tout à l'heure, dans une poignée de minutes, avec Monsieur Christian Jean précisément. Ensuite, nous parlerons d'un autre sujet aussi qui fâche. C'est Omar Slaty, qui est un élu sur la ville d'Argenteuil. Il viendra nous parler, vous savez quoi, d'un sujet qui en ce moment... on va parler de racisme, on va pas parler avec lui évidemment d'un sujet et surtout d'une marche unitaire. Parce que figurez-vous, la marche unitaire c'est ce 23 septembre, parce que figurez-vous, eh bien, ils veulent en finir avec les violences policières. Tout à l'heure aussi également, hein, dans une poignée de minutes à peine, 19h10, juste après la pub, les débatteurs, influenceurs, ils sont quatre ce soir, commenteront l'actualité autour de la TVA et la taxe sur l'essence. Alors paraît-il que l'État se gave. Bon, clochette, on y retourne. C'est curieux. Ben oui, on va en parler. C'est ce que dit Xavier Bertrand et Marine Le Pen. En gros, l'État s'enrichit. Sur le dos de qui? Ben des Français. Clochette. On aura tout vu. L'inflation, le pouvoir d'achat, comment s'en sortir? Puisque, figurez-vous, eh bien, tout flambe. On va en parler. Oui, au 0153483000, je voudrais vous entendre tout à l'heure pour nous dire précisément, eh bien, comment vous faites pour vous en sortir? Et est-ce que vous êtes dans l'endettement ou le surendettement? Vous vivez ou vous survivez? Enfin bref, toutes ces questions qui nous concernent. Parce que paraît-il qu'aujourd'hui en Europe et en France, eh bien, il faut être riche pour vivre. Non mais c'est vrai, je blague pas. Hein. C'est vrai, même la classe moyenne est en train de disparaître. Allez, c'est parti, c'est tout de suite en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Christian Jean. Bonsoir, Christian Jean.
Bonsoir, Adil. Très heureux de t'entendre.
Partagé, moi aussi, pareil. Écoutez, avec vous, Christian Jean, vous savez quoi, on va parler justement de l'aumônerie, la création d'une aumônerie au sein de tout simplement des écoles scolaires. Parlons-en justement, parce que vous tapé fort, hein. Vous nous rappelez ce que c'est que la laïcité, rien que la laïcité et toute laïcité, et si l'aumônerie scolaire était une réponse. Qu'est-ce que vous entendez par cela, justement, mon cher Christian Jean?
Alors, tout d'abord, je refixe le contexte. Notre organisation qui est l'aumônerie musulmane de France, donc qui est la seule organisation professionnelle d'aumôniers, donc qui défend les intérêts des aumôniers individuellement et collectivement, a fait un communiqué au regard d'une rentrée scolaire quelque peu mouvementée et choquante, où on nous a beaucoup parlé de laïcité, dans un pays qui oublie d'appliquer la laïcité. En effet, la laïcité, c'est la loi du 9 décembre 2005 qui prévoit des aumôneries dans les hospices, les asiles, les prisons, mais aussi les écoles, les collèges et les lycées. À ce jour, il y a en France, donc nous avons des chiffres que de 2014, puisque les informations en France sont toujours camouflées, dirais-je, nous avons en France 1600 aumôneries catholiques dans les établissements publics, je parle bien d'établissements publics, hein, c'est-à-dire les collèges et les lycées qui n'appartiennent pas au monde du privé. Nous avons 16 aumôneries protestantes et 5 aumôneries israélites. Donc ça, c'est les travaux du docteur Benjamin Farah de l'EHESS en 2014. Et nous n'avons aucune aumônerie musulmane. Donc la loi prévoit que nous pouvons avoir une aumônerie. Il y a même une circulaire de 1988 qui le prévoit. Il suffit pour cela que les parents, mais il faut que les parents aussi se mobilisent, demandent au principal ou au proviseur la création d'une aumônerie scolaire. Cette aumônerie, elle peut être accordée si le recteur l'autorise, mais elle est dans tous les cas obligatoire, je reviens sur le terme obligatoire, lorsque le lycée comporte un internat. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant est à l'internat, mais dès qu'il y a un internat, l'aumônerie est obligatoire, le proviseur ne peut pas s'y opposer, il doit la créer dans les 15 jours, et surtout, point important, l'enseignement religieux y compris la salate, pourront être organisées dans l'établissement. C'est ça la laïcité, rien que la laïcité.
Alors, on l'aura compris, effectivement, aujourd'hui, vous montez au créneau pour défendre justement cette idée de la laïcité, rien que la laïcité, toute la laïcité, et si l'aumônerie scolaire était une réponse. Qu'est-ce que vous entendez par cela? C'est dire la loi. Or, la loi, on veut comprendre. Parce que vous dites une laïcité détournée et diminuée. Et vous dites l'aumônerie et l'aumônier musulman, une triple utilité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que c'est encore peu connu chez les musulmans, on doit le dire.
Tout à fait. Alors, dans l'ordre, on va d'abord redéfinir ce qu'est un aumônier. L'aumônier ne fait pas partie de la culture musulmane, puisqu'il est issu de la culture catholique et qu'il vient du Moyen-Âge. Les premiers aumôniers, eux, ont vu le jour, les premiers aumôniers musulmans ont vu le jour entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et ont connu véritablement leur existence à l'armée dans les années 90 et dans les hôpitaux à partir de 2006 avec la structuration du culte français du musulman. La problématique qui se pose, c'est que la République voit les religions à travers les lunettes du catholicisme et à travers son expérience coloniale concernant l'islam. Aujourd'hui, un aumônier, c'est, on va dire, entre guillemets, parenthèse italique, parce que c'est compliqué à expliquer, c'est un agent du culte, donc un prêtre, un curé, un rabbin, un imam ou une personne qui va accompagner spirituellement un malade, un prisonnier, un soldat ou un élève. Et donc cet accompagnement spirituel, c'est à la fois le conseil, mais c'est aussi la pratique des rites.
Alors concrètement, Christian Jean, concrètement, ça se traduit par quoi dans les écoles, au sein de la scolarité? Ça se traduit comment et pourquoi vous défendez cette idée?
Alors, aujourd'hui, on a des aumôniers musulmans à l'armée, dans les hôpitaux et dans les prisons. On n'en a pas dans les écoles. Et pourquoi il nous en faut dans les écoles? Pour pouvoir accompagner les jeunes qui sont aujourd'hui laissés en pâture à TikTok et aux autres réseaux sociaux, qui sont instrumentalisés par les politiques de tous bords, qui ont besoin de pouvoir faire la synthèse entre leurs croyances et leur identité républicaine. Et aujourd'hui, on passe son temps à leur expliquer que s'ils sont musulmans, ils ne sont pas français. S'ils sont français, ils ne sont pas musulmans. Ben, on déplace à beaucoup, ils sont français, ils en sont fiers, ils sont musulmans, ils en sont doublement fiers. Donc il faut des personnes qui soient là pour aplanir les conflits, expliquer aux parents, expliquer aux jeunes, leur donner le mode d'emploi de leurs croyances dans le contexte de la République et montrer à la République qu'il n'y a pas d'opposition, mais que la laïcité ce n'est pas la négation des religions, c'est la liberté de croire et c'est la liberté de toutes les croyances. On ne peut donc pas dans une République dire que certaines croyances ont des droits et que d'autres n'ont que des contraintes et des interdits.
Comment, Christian Jean, dernière question, comment voyez-vous les choses à terme? C'est-à-dire que, est-ce que vous allez aller défendre cette idée, prendre votre bâton pour aller défendre cette idée auprès des différents responsables, en tout cas chefs d'établissement, ou est-ce que vous allez monter au créneau au sein de l'éducation nationale? Comment ça va se passer concrètement?
Eh bien, c'est pas comment ça va se passer, c'est comment ça va se passer. Nous avons saisi le cabinet de monsieur le ministre.
Parce que là, c'est l'AMF qui le porte. On est d'accord?
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
L'AMF.
On a donc,
l'aumônerie musulmane de France.
Tout à fait. On a saisi le cabinet de monsieur le ministre de l'Éducation. Sa directrice de cabinet nous a envoyé sur le comité des sages de la laïcité, à qui nous avons demandé un rendez-vous. Nous avons aussi saisi le cabinet de la ministre de la Jeunesse, puisque, comme vous le savez, on prévoit le SDU obligatoire pour une classe d'âge. Ce qui veut dire, au regard des plannings, 300 000 jeunes musulmans qui seront enfermés pendant 2 semaines, pendant le ramadan, sans pouvoir pratiquer leur culte. Ce qui est tout à fait intolérable. Donc nous anticipons. Nous prenons des rendez-vous aussi avec les académies. J'ai des rendez-vous en cours avec plusieurs académies. Et nous avons aussi lancé des actions sur le terrain, informer les parents, parce que la demande doit venir des parents. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Il faut que les parents assument.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, les parents, ce soir?
Eh bien, il y a une lettre type, vous avez des enfants scolarisés, vous voulez qu'ils soient suivis religieusement, vous voulez leur éviter de perdre leur mercredi ou leur samedi à faire autre chose qu'étudier ou des loisirs, vous voulez que ça se passe bien dans l'école et que l'école comprenne que ce sont des jeunes français à part entière, demandez la création d'une aumônerie musulmane dans chacun des établissements. Envoyez cette demande par lettre recommandée, mettez-nous copie, nous on suivra les dossiers et on vous dira quels sont les résultats.
Alors si on veut vous contacter, semaines. Comment ça se passe? Parce que effectivement, est-ce que c'est sur le site internet? Comment ça se déroule?
Oui, tout à fait, sur le site internet, aumônerie musulmane de France, et sinon l'email aumônerie.musulmane.france@gmail.com.
Christian, Jean, merci infiniment de nous avoir apporté
merci
cet
beaucoup,
éclairage.
Merci à tous.
Et puis on va suivre ça avec beaucoup d'attention et regardez, vous ne manquerez pas de nous tenir informés, bien sûr.
Bien entendu. On vous viendra vous donner la primeur des résultats de l'enquête sur les demandes des parents.
Allez, super. Merci. À très, très vite.
19h. Merci, au revoir.
Au revoir. À très bientôt. 19h10. Et vous le savez, on continue d'accueillir d'autres invités puisqu'on va parler, eh bien, vous le savez, de cette marche unitaire avec Omar Slaty. Bonjour, Omar Slaty.
Bonjour. Oui, bonjour Adil.
Bonjour, vous êtes un élu, évidemment ancien maire adjoint sur la ville d'Argenteuil, vous êtes un acteur politique local, et vous êtes avec nous pour nous parler de cette marche unitaire. Parce que samedi prochain, samedi 23 septembre, eh bien vous voulez évidemment livrer un message aux auditeurs parce qu'il y a plus de 110 organisations qui appellent des comités contre les violences policières à Greenpeace. Dites-nous tout alors, de quoi s'agit-il avant que je lance ce spot qui résume assez bien la situation ?
Oui, c'est 110 organisations dont la Coordination nationale contre les violences policières, le collectif des quartiers populaires, la Marche des solidarités qui seront en tête de cortège, qui appellent bien sûr à une mobilisation contre les violences policières. On a tous assisté à la mort de Naël et aux révoltes qui s'en ont suivi. D'ailleurs, on demandera la relaxe des révoltés. Et puis, on doit citer avec Naël, parce que c'est ça qui est dramatique, c'est que ce n'est pas une bavure, ce n'est pas un accident, c'est récurrent. Pour ça qu'on parle de violence systémique et de violence structurelle, de racisme structurel dans la police. Et nous, on se rappelle, Nordine et Meryl, Amine, Ali, Adama, Aloussen, Michael, Wissam, Lamine, Olivio, Sabri, Yanis, Ryan, Zineb, Liu, Rémi, Steve, Cédric, Malikou Sekine, Rayana, Claudio, parce qu'on ne faut pas de la Guadeloupe aussi, Malika, bref, tous ceux et toutes celles que j'ai encore oubliés, qui sont la longue litanie de ces jeunes qui sont souvent arabes et noirs dans les quartiers populaires et qui sont tués par la police. Or, nos quartiers populaires ne sont pas des stands de tir. À dire que les auditeurs et les auditrices doivent comprendre, c'est très important, c'est que cette marche-là, ce n'est pas une marche de plus. C'est la marche. Il y a eu une grande marche contre l'islamophobie en 2019. Dans cette marche, on dénoncera aussi la hagra qui est faite à l'endroit notamment des jeunes femmes qui portent la abaya. C'est-à-dire qu'on doit dire que dans ce pays-là, c'est plus possible. On doit vivre à égalité de droits, quel que soit l'accent accroché à notre visage, qu'on soit arabe, noir, gens du voyage, qu'on porte une abaya ou un foulard ou pas. On doit être traité à égalité de droits.
Alors justement, Omar Slaty, vous savez quoi ? Je vais planter le décor. Vous avez monté justement une vidéo qui parle assez bien de ce samedi 23, de cette grande marche que vous initiez avec d'autres. Écoutons.
Nous, familles de victimes de violences policières, disons stop.
Stop au meurtre de nos enfants. Nos quartiers ne sont pas des centres de tir.
Stop aux techniques d'immobilisation qui tuent. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur la vie de qui que ce soit.
Stop aux violences pénitentiaires. Stop aux LBD qui blessent et mutilent.
Stop à l'impunité policière et à toutes ces lois qui sont des permis de tuer.
Stop aux crimes racistes. Stop au traitement partiel de nos affaires par la justice française, car c'est eux qui tuent une seconde fois nos frères, nos sœurs, nos parents et nos enfants.
Stop à la chasse aux musulmans, on s'habille comme on veut.
Stop à toutes ces mesures d'État raciste, comme toutes ces lois sur l'immigration qui pourrissent nos vies dans nos quartiers.
Des quartiers déjà abandonnés à la précarité et à la pauvreté.
Aux jeunes qui se soulèvent dans nos quartiers pour leur dignité, nous affirmons toute notre solidarité
et exigeons leur relax pour avoir dénoncé le meurtre de Naël, exécuté par un policier.
Ensemble, nous combattons le racisme d'où qu'il vienne, de l'État, de la droite ou même d'une certaine gauche.
La rue sera notre rue le 23 septembre.
Rendez-vous à tous les habitants des quartiers populaires, à tous ceux et toutes celles qui ont été victimes des violences policières. On se retrouvera à 14h30, Gare du Nord,
en tête de la manifestation.
Alors dans ce spot, évidemment, qui parle de cette fameuse marche de samedi 23, Omar Slaty, c'est des habitants, hein, c'est des habitants des quartiers populaires qui lancent des slogans, chacun à tour de rôle dans cette vidéo.
Oui, c'est ça. Vous pouvez voir ce spot-là, ce clip-là. Il y a évidemment la sœur d'Adama Traoré, il y a Assa Traoré, il y a Ahmed Bentissi, la sœur de Lamine. Il y a la famille de Claudio qui, lui, a été assassiné en Guadeloupe, et il y a énormément de personnes qui sont les premières concernées. Et franchement, il faut le dire aux auditeurs, aux auditrices de BRFM, c'est une radio intelligente, et il est difficile de trouver de la bonne information aujourd'hui avec tout ce qu'on nous bassine sur BFM et CNews, etc. mais nous devons aussi parfois nous retrouver ensemble dans la rue. Le 19 septembre, on avait manifesté massivement contre l'islamophobie. On a fait avancer un petit chouï les choses, mais là, c'est plus possible. On ne peut pas tirer sur nos jeunes.
Alors, ça se passe où et à quelle heure précisément, Omar Slaty?
Eh bien, le rendez-vous est simple. C'est 14h30, Gare du Nord. La manifestation va durer 1h30, parce qu'on a un trajet qui est très court. Du coup, on peut venir 1h30. Il y a une centaine de manifestations partout en France, à Marseille, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Angers. Partout, ce 23 septembre, on va manifester en France, nous à Paris et région parisienne. Le rendez-vous, c'est 14h30, Gare du Nord. On sera les quartiers populaires, la tête de cortège.
Alors,
que les syndicats, les partis seront derrière.
On l'aura compris. Omar Slaty, rendez-vous est donné donc ce samedi, le 23 septembre, à 14h30, à la Gare du Nord. Marche unitaire, donc marchepourlajustice.fr. Allez, récoltez toutes ces infos. Merci, Omar Slaty, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Merci. Et puis, je le rappelle, vous êtes Slaty. Merci, Omar Slaty, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes un élu, ancien maire adjoint sur la ville d'Argenteuil et auprès de tous ces comités, donc, d'organisation qui appellent à cette grande marche contre les violences policières. Rendez-vous est noté. Voilà. Marque cette première pause et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h23, chers amis, c'est les informés, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Jérôme Bonnet, journaliste. Bonjour Jérôme Bonnet.
Bonjour.
Ancien rédacteur-chef de RT. À ses côtés, c'est Gamal Abina, le porte-parole de MDC. Bonjour Gamal.
Bonsoir Adil.
Un retour fracassant, c'est Raïd Chaibi, le président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Bonjour.
Bonsoir Adil.
Un autre journaliste, vous avez eu, voilà, qui bosse pour Opinion Internationale. Il s'appelle Radouane Kourak.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Très bien, vous?
Très bien. Messieurs, tout de suite, je vous laisse réagir parce que vous vouliez absolument réagir sur cette fameuse marche unitaire qui se déroule samedi 23 à 14h30 à la gare du Nord, mais partout en France. Jérôme Bonnet, j'ai l'impression qu'il est remonté. Pour quelle raison?
Alors, je voulais d'abord exprimer ma solidarité pour cette marche que je comprends et que je trouve extrêmement légitime. Je voulais revenir à l'un de ses fondements, parce que on a un problème en France, c'est que dès qu'il y a le moindre fait divers, ou pas le moindre, mais dès qu'il y a un fait divers qui marque l'opinion, eh ben on pond une loi sous le coup de l'émotion pour satisfaire les gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Naël, puisqu'en fait, il faut remonter à 2011, à l'attentat à Nice, en fait. Postérieurement à cet attentat, hein, monsieur sur la promenade des Anglais avec un camion, eh bien, on a pondu une loi disant qu'un policier, voyant quelqu'un à bord d'un véhicule s'enfuir, étant susceptible de créer des dommages, a le droit de tirer. Donc, et à l'époque, évidemment, tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est bien, il faut empêcher les terroristes. Peut-être si les policiers l'avaient abattu, il aurait tué moins de monde. » En réalité, quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune qui fait un refus d'obtempérer, qui avance tout doucement, qui menace de blesser personne et qui se retrouve avec une balle. Il faudrait un peu réfléchir avant de passer des lois parce que elles ont elles se traduisent par des drames en aval.
Donc arrêtons de pondre des lois.
Eh bien, réfléchissons à ce qu'on fait déjà et ne pondons pas des lois sous le coup de l'émotion.
Voilà, faisons un tour du temps, justement, allez, Gamal Abina et ensuite Raïd Chaibi et Radouane Kourak.
Ça rappelle le 11 septembre quand les Américains font une loi qui s'appelle le Patriot Act qui autorise un policier à fouiller où il veut, quand il veut, sans aucune liberté et écouter les gens. À chaque fois qu'on fait une loi qui est consécutive, le fait de faire des lois est normal, hein, mais il faut les faire sous le sol du calme et de la réflexion, non pas sous le sol de l'émotion. À partir du moment où on fait une loi punitive, parce que c'est la punition, c'est plus une loi, c'est-à-dire qu'on réagit, on n'a pas pu neutraliser un terroriste, donc tout le monde devient terroriste de fait, si jamais il ne ralentit pas. Ben, les lois doivent pas être pensées comme ça. Le législateur, c'est quoi? C'est le Parlement qui réfléchit longtemps pour que les lois arrivent. Ou d'autres lois qui arrivent, qu'on appelle la jurisprudence. Mais la jurisprudence, c'est la conséquence d'un long processus d'enquête. On arrive au tribunal, il y a 3, 4, 5 jours, et on pond une loi. Mais c'est pas de la réaction émotionnelle, la loi. Ça doit être réfléchi, il doit y avoir du recul.
Ah, je vous laisse finir.
Non, j'ai pas parlé, je finis.
Ah, vous avez la chute est bizarre.
Nickel.
C'est
ce étonnant de la part de.
Non, mais vous étiez en l'air encore. Le recul en l'air.
Non, le recul après
plutôt. On attendait une suite, mais bon.
Bah ouais, mais
très bien, parce que j'attendais la suite aussi.
Non, parce que vous êtes resté en l'air.
Le recul nécessaire, voilà.
Le recul nécessaire, voilà. Point.
Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème en France, c'est que on est un petit peu les spécialistes de la lasagne législative.
Ah, c'est bien dit.
C'est-à-dire que je rejoins ce que j'aime
l'expression,
dit,
ouais.
Moi aussi, bien.
C'est que on
la
a
lasagne.
Tendance, on a tendance effectivement à chaque fois à superposer ou un millefeuille.
Vous connaissez millefeuille,
version salée du millefeuille.
Pourquoi pas au dessert et de réagir effectivement sous le coup de l'émotion et de effectivement de faire voter des lois, sachant que peut-être que la loi qui avait été votée précédemment répondait au problème et qu'il fallait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si on, avant de faire voter une loi ou de penser à un mécanisme législatif, si déjà on faisait le bilan des précédents mécanismes législatifs, je pense que ce serait pas plus mal qu'on mette un jour et qu'on dépoussière un peu ce qui existe déjà.
Radouane.
Moi, je suis en accord avec rien de tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on se trompe totalement de débat. On a un monsieur qui nous annonce qu'il fait une manifestation clairement anti-police, mais dans la République, la police ne fait pas peur, elle rassure. On avait déjà eu ce débat il y a quelques semaines. J'ai couvert pour Beurre FM, notamment les émeutes de Nanterre.
Et on s'en rappelle.
On s'en rappelle, et ce monsieur nous a déballé tout le lexique d'un marginal, du séparatisme, abaya, police, racisme. Ça n'a aucun sens. La police ne fait pas peur dans la République, la police protège. On se trompe complètement de débat.
Non, ça dépend des quartiers. Le monsieur s'appelle Omar Saouti, il est professeur, il est dans les quartiers, il est à Argenteuil, pour laquelle d'ailleurs la ville d'Argenteuil, il y a une spécificité policière.
Certes, mais il n'a pas le monopole des quartiers.
Non, il n'a pas le monopole, il est des quartiers, c'est intéressant quand même.
Moi aussi.
Et précisément, ce qu'il veut dire, c'est pas, il dit pas la police. C'est pas ça, c'est un propos ridicule, c'est un slogan. Il dit qu'il y a un problème dans la police avec certains éléments qui se comportent mal. C'est plus mesuré que ça. Et aujourd'hui, surtout, ce qui est inquiétant, c'est les lois. Et là, il a raison. Ces lois qui arrivent comme ça, elles arrivent pour légitimer de l'action violente, alors que la peine de mort est interdite en France.
Mais la police a le monopole de la violence légitime.
Non, c'est un slogan d'État.
Non, la police a le monopole de la violence légitime, c'est pas la loi.
Ça s'appelle un slogan journalistique pour nous vendre que la police a le droit d'être violente. Non,
la police,
c'est aussi un slogan. La police n'a pas le monopole de la violence. La police a le monopole de la sécurité.
Dans la République, il y a ceux qui sont du côté de la police. Jamais je n'incriminerai un policier. Je préfère un délinquant. Oh. Je préfère un délinquant en prison, un délinquant même parfois mort face à la police.
Attendez-vous,
mais la police a le monopole.
Vous dites que quoi qu'a fait le policier,
la
vous
police a le monopole
jamais.
De la violence légitime. Elle est là pour faire respecter l'ordre.
Il n'y a pas de violence légitime. Ça n'existe pas. Ça existe dans les dictatures, pas dans les démocraties. Il n'y a pas de violence légitime à la police. Il y a la loi qui encadre la police.
Lorsque l'on refuse d'obtempérer, on se met soi-même en danger.
Non, le refus d'obtempérer, c'est pas de la violence légitime, ça s'appelle du meurtre.
Lorsque l'on refuse d'obtempérer, on se met soi-même en danger.
Non, c'est pas en danger.
Dès lors que vous refusez de vous fier à un contrôle de police, vous vous mettez vous-même en danger, monsieur.
Et vous êtes sérieux là?
Mais alors, vous trouvez qu'il est légitime, donc, de tirer sur quelqu'un et de tuer quelqu'un?
Je ne me réjouis jamais de
le seul, dont le seul. Non, j'ai pas dit que vous vous en réjouissiez. Bien sûr que non. Non, mais vous trouvez légitime qu'un homme dont le seul tort, et c'est un tort, c'est un délit, et d'avoir refusé d'obtempérer, se prennent une balle dans la tête. Ça vous semble normal?
Non, c'est pas normal, mais c'est une infime minorité.
Dès lors
qu'il y a un dérapage, il y a l'IGPN
l'IGPN appartient à la police. Il faut un corps indépendant.
Vous êtes anti-police, vous êtes anti-républicain.
Je dis que je suis anti-dictature.
Mais
si la police,
donc
on lui donne si on donne tous les droits à un corps d'armée dans un État,
selon vous, on vit en dictature?
Je dis, juste
un moment. Vous êtes anti-police? Non, je crois pas.
Si on donne tous les droits à un corps d'armée, c'est dangereux.
Encore moins. À vrai dire, j'aime pas qu'on parle de la police comme si c'était. Mais voilà, c'est ça. En fait, il y a une très large majorité de policiers qui font consciencieusement leur travail.
Et la majorité, et heureusement d'ailleurs.
Mais bien sûr, on a besoin de la police, évidemment, personne ne le nie.
Mais il y a des moutons.
Heureusement qu'on a besoin de la police.
Il y a des moutons.
Et il y a des policiers formidables, il faut le dire.
Il y a des moutons dans tout groupe, mais moi,
la majorité sont formidables.
Je n'aime pas quand on stigmatise. Vous n'aimez pas la stigmatisation, monsieur?
Mais pourquoi? Je ne suis pas chrétien, donc la stigmatisation, c'est pour les chrétiens. D'accord? Non, on commence par le jour. Non, mais je le fais exprès pour expliquer.
Le stigma. Là, vous jouez sur.
Non, je reviens sur la base.
Le
stigme du Christ, on connaît.
Oh,
plus sérieusement,
je n'incrimine pas
la police, j'incrimine certains voyous qui existent dans tous les corps de métier, comme dans la police.
Et bien pourquoi faire une marche contre les violences contre
parce
les
qu'il
violences
y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts.
Qu'il y a des violences.
Non, c'est pas les sous-entendus. Il y a une réalité sur le terrain.
Il y en a trop.
Il y en a trop. Trop de morts. Bah, un chiffre, en Allemagne, il y a les policiers. C'est
oui,
une démocratie.
Absolument. Je ne suis pas un mort français, je parle de la France.
Parlons de démocratie.
Alors, messieurs,
un mort en 13 ans en Allemagne. Voilà.
Vous savez quoi? Je veux juste rappeler quelque chose. Alors, quand on voit l'affiche, l'affiche dit marche unitaire, Elle dit contre les violences policières, elle dit contre le racisme systémique, et ils disent et pour les libertés publiques.
Donc voilà. Il y a un racisme systémique, c'est indiqué sur l'affiche.
Il y a pas, je vous la montre. Mais c'est quoi, il y a pas la police. Adil,
c'est quoi le système contre un racisme systémique? C'est quoi le système? Ça laisserait sous-entendre que la police dans sa globalité est raciste.
C'est pas la police. On parle du système.
C'est une marche contre les violences policières.
Non, on parle du système. On parle du système. Non, je mélange jamais. Moi, je suis très carré là-dessus. Je mélange jamais. Je comprends bien les ordres. J'ai fait cet endroit. J'ai fait cet endroit. Je ne mélange pas. Juste pour vous expliquer une chose, c'est quand on parle d'un système, il y a un système qui existe, qui est inconscient malheureusement, de certains policiers qui en profitent pour pouvoir abattre des Noirs et des Arabes. C'est une réalité de terrain.
Donc là, vous laissez sous-entendre.
Il y a des policiers
volontairement flinguent des Noirs et des Arabes.
Auditeurs, 0153 48 3000. Tiens, jingle, attendez, jingle des auditeurs.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Mais on ne fait pas une manifestation. Justement, 01 53 48 3000. Les auditeurs, j'ouvre l'antenne et je voudrais vous entendre partout en France. Livrez votre message. Est-ce que vous êtes d'accord avec Radouane Courac, plutôt d'accord avec Gamal Abina, ou plutôt d'accord avec Jérôme Bonnet, plutôt d'accord avec Rayed Chaibi? Est-ce que vous considérez que la police est plutôt dans l'intérêt évidemment de notre République, c'est-à-dire qu'on en a besoin de toute façon? Moi, je trouve que la majorité sont plutôt corrects et ils sont formidables. Bon, voilà. Évidemment. Ou est-ce que vous, comme cette marche, est-ce que vous êtes d'accord avec cette marche et vous venez nous en parler ici, venez apporter votre témoignage. 01 53 48 3000. Messieurs, on avance?
On avance.
On va parler. Tiens, on va prendre. Attendez, je vais les prendre en direct. Tiens, on va les prendre. 01 53 48 3000. Second sujet en entendant vos appels. TVA. Taxes, l'essence, vous savez quoi? Madame Le Pen, et Monsieur Bertrand, ils disent, en gros, que l'État se gave. Il y a un véritable pactole qui s'est créé grâce à autour de cette TVA et la taxe sur l'essence. Mmh. Alors, l'État s'enrichit-elle sur le dos des Français, Jérôme Bonnet?
Alors, non.
Comme dit Xavier Bertrand.
Non, déjà dire l'État s'enrichit.
Est-ce qu'elle se gave?
L'État, c'est vous, c'est moi. Globalement, l'État, c'est les hôpitaux, c'est la police dont on parlait à l'instant, c'est tous les services publics. Donc, un État qui s'engraisserait sur le dos de la population, ça veut rien dire. Je rappelle que la France a un déficit, absolument gigantesque. Mmh. Et puis, comment dire, lorsque effectivement, la hausse sur la TVA, bien sûr, a fourni des recettes supplémentaires à l'État.
La hausse
par la TVA, oui, c'est ça, sur les... Ouais, mais dans le même temps, il y a eu des dispositifs pour soutenir les consommateurs, notamment sur l'essence, avec la remise, etc. C'est, en fait, ce qu'ils auraient gagné, l'État, ce que l'État aurait gagné, ce serait 4 milliards divisé par 2, puisque la moitié va à d'autres collectivités, donc 2 milliards. Rien que le soutien sur le prix de l'essence a coûté 7 milliards. Donc on voit bien qu'ils ont dépensé plus de 3 fois et demi exactement ce qu'ils ont gagné en soutien aux ménages. Donc à mon avis, dire que l'État se gave, c'est du populisme en réalité.
Du populisme, oui. De la part de monsieur Xavier Bertrand et de madame Marine Le Pen. Gamal Abina.
Bah, là je serais pas tout à fait d'accord avec mon ami Jérôme.
Ce qui est en moi.
Oui, mais là-dessus, sur un point, je suis d'accord. Effectivement, l'État ne se gave pas puisqu'il est chroniquement déficitaire. Il y a une dette abyssale de 3000 milliards.
Oui.
En revanche, si on connaît un peu les mécanismes comptables, là où ils ont fait un effort sur l'essence, c'est qu'ils touchent quand même 80% de taxes sur les produits pétroliers. Donc, ils ont juste réduit un peu leurs bénéfices. C'est pas un don qu'ils ont fait, c'est une réduction de bénéfices. Par contre, là où je suis d'accord avec Jérôme, je le rejoins. D'abord, l'État, c'est tout le monde. Hein, on est tous cotisants. 50% du budget de l'État, c'est la TVA. Donc, c'est l'impôt indirect et le plus inégalitaire. Et lui, il est pas du tout raciste. Hein, il fait pas de différence entre les gens. Et surtout, c'est pas le problème de l'État. L'État bénéficie d'une augmentation des revenus par la TVA parce que, effectivement, les prix ont augmenté, mais ceux qui se gavent, c'est pas l'État, c'est ceux qui ont augmenté les prix. Ce sont les revendeurs, les distributeurs, toutes les centrales d'achat. Tout cela se sont mis plein les poches.
On dit qu'elle a récolté un pactole.
C'est pas un pactole, c'est quand on est bénéficiaire. C'est juste une réduction de pertes.
Vous voulez réagir? C'est ça, Radon Coral. Bah, qu'est-ce qui se passe?
Là, on est d'accord pour une. Ah, en réalité, il y a deux taxes. Il y a la TVA. Et il y a la TICPE, c'est une autre taxe qui s'ajoute sur les produits pétroliers, tout ce qui est carburant et produits énergétiques. Mmh. Mais en réalité, on parle souvent de taxe sur la taxe, parce que l'État est malin. L'État prend de la TVA sur le prix de base, mais aussi de la TVA sur la TICPE. C'est là qu'en réalité il y a une problématique. Mais en réalité il n'y a pas de pactole. Ça dépend de ce qu'on appelle un pactole. Et la TVA, comme l'ont rappelé mes collègues, c'est la moitié des recettes de l'État. Mais la TVA finalement elle profite à tout le monde, car l'État au cours des deux dernières années avec ce qu'elle a gagné sur le prix des carburants, c'est 2 milliards par an. 2 milliards par an, c'est quoi? C'est 50% qui va pour l'État, 25% pour les collectivités territoriales. territoriale et 25% pour la sécurité sociale.
Exact.
Donc si l'État se constitue un pactole, c'est finalement une bonne chose.
Ah, s'il y a un pactole, déjà, faut qu'il y ait un pactole.
S'il y a un pactole. Arrête, Chaibi. Et ensuite, Jérôme Bonnet.
Je suis plutôt d'accord, c'est plus un slogan populiste. Après, dans cette situation, honnêtement, je pense que ça va être une grosse patate chaude pour le gouvernement, puisque les grands distributeurs ont déjà annoncé. Bon, déjà, la vente à perte qui nous avait été vendue. Comme le slogan de l'année, comme dirait Chirac, a fait pchit avant d'avoir commencé.
C'est quoi la vente à perte? J'aimerais bien savoir plus. Je sais pas.
C'est la mesure.
Je sais ce que c'est, alors, la mesure.
C'est de quoi?
Bah, c'est l'autorisation de la vente à perte.
C'est l'autorisation.
Ah, ils autorisaient la vente à perte?
Oui.
Ah, donc il n'y a plus de loi, quoi. C'est interdit par la loi, on l'autorise.
C'est autorisé depuis 1963, il me semble.
Je vous interromps, vous savez quoi? Je dois lancer la pub. Ah, je suis très en retard.
Ça m'intéresse,
J'ai même quasiment oublié, là. 19h37, on lance la pause. La pause, et on se retrouve dans une poignée de secondes à peine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Raïd Chaibi, les informés avec Gamal Amina, Jérôme Bonnet et enfin Radouane Kourak. 19h44 précisément. C'est parti, chers amis. Nous allons. À qui je devais redonner la parole? À Raïd Chaibi. Voilà, exactement.
Suite,
exact. Merci. Et ensuite après.
Oui, parce que j'ai été volontairement coupé par Gamal Amina.
Oui,
qui scotché. Oui, qui fut scotché.
Non, je disais qu'effectivement, c'est un peu une mini bombinette, enfin une grosse bombinette qu'il y a entre les mains du gouvernement, puisque. En début de semaine, je crois, ou la semaine dernière, Bruno Le Maire, bien sûr, et derrière lui, Elisabeth Borne, avait autorisé la vente à perte de carburant, ce qui est un peu une aberration. Et il y a eu un front, ce qui est assez extraordinaire, puisque tous les grands distributeurs, y compris même Total, ont annoncé qu'ils s'opposeraient vivement à cette mesure. Donc on a ça d'un côté, on a le gouvernement qui refuse de faire un geste de l'autre côté. Sincèrement, je vois pas où tout cela va nous amener. C'est assez dramatique.
Juste sur la vente à perte, l'objectif même, la finalité, le but d'un commerce, c'est de faire du profit.
Exactement.
Si un commerce vend à perte, ce n'est plus un commerce.
Exactement, c'est ce qui a été dit d'ailleurs, je crois que c'était par président de Carrefour également, qui était interrogé hier en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, disant si on vend à perte, derrière, ne vous étonnez pas si on augmente le prix des denrées.
Alors justement, vous me permettez une belle transition, parce que vous savez, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup d'inflation, et vous savez quoi? C'est parti pour durer. Je vous l'apprends pas. C'est pas moi qui le dis, c'est les économistes, c'est les spécialistes.
C'est clair.
Et puis surtout, comment nos Français, eh bien, ils s'en sortent? Parce que ceux qui gagnent moins de 2000 euros, je peux vous garantir, c'est le chaos total chaque mois. C'est vrai. Appel début du mois, vous percevez votre salaire, qui est déjà parti, et que c'est déjà, si vous voulez, le chaos avant l'heure. Autant dire que tout ça nous préoccupe, parce que quand je vois ces chiffres et quand je vois nos pauvres Français trimés et que surtout les Restos du Cœur ici sur cette antenne dans les informés sur BFM nous livraient comme message qu'ils recevaient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois même, parlaient même de 10 fois plus de monde qu'avant, il y a de quoi se poser des questions. Jérôme Bonnet.
Effectivement, il manque, vous avez vu, il y a une étude qui est parue, 588 euros par mois aux Français pour vivre correctement. C'est le montant le plus élevé depuis 12 ans.
Donc les fins de mois difficiles. Hein.
Absolument, les fins de mois sont de plus en plus difficiles.
Alors difficile, mais il y a un autre mot, et je vous coupe, c'est l'inquiétude qui règne.
Bien sûr, parce que c'est pas bon du tout. Et de fait, par quoi ça se traduit en réalité? Si vous avez du mal à boucler vos fins de mois, eh ben vous allez chercher des combines pour pouvoir gratter un petit peu de sous par-ci par-là, c'est bien normal. J'ai vu que le montant des retraits aux distributeurs de liquide avait augmenté de 5% en un an. Et alors évidemment, il y a des gens qui disent oui, ben c'est parce que comme ça, je vais au marché, j'ai que 50 euros sur moi et je suis sûr que je dépense pas plus. Peut-être. Pour partie, mais on m'ôtera pas de l'idée que beaucoup de cet argent est destiné à rémunérer des services au noir. C'est un peu normal. Quand les gens ne peuvent plus survivre, ils sont obligés de trouver des méthodes. Donc on ferait bien de s'attaquer. En fait, depuis très longtemps, est menée en France une politique de l'offre. C'est-à-dire que tout ce qui est cadeaux fiscaux, dégrèvements d'impôts, est ciblé sur les entreprises et jamais sur les particuliers, en particulier les classes inférieures et moyennes, ce qu'on appellerait la politique de la demande. Et pourtant, le capitalisme est un moteur qui a besoin d'essence pour tourner, et cette essence, c'est l'argent. Donc en réalité, si vous baisser les impôts sur les classes moyennes. Les moyennes, c'est important. Hein.
C'est celles qui souffrent le plus.
Et inférieures, ils vont dépenser. Et c'est celles qui souffrent le plus. Et vous avez la garantie que eux vont dépenser cet argent. Tandis qu'en faire cadeau à des entreprises, le plus souvent, ça se traduit par des dividendes plus élevés pour les actionnaires.
Gamal Abina.
Il y a une véritable inquiétude qui n'a fait qu'augmenter avec les années. Alors on sait qu'il y a 40 ans de crise derrière nous. Le problème, c'est qu'il y a une accélération de la crise par différents mécanismes de l'inflation. D'abord, il y a la crise du Covid. Ensuite, il y a la crise de l'endettement. Il y a la crise ukrainienne qui a surenchéri sur le pétrole et le gaz, qui fait que tout coûte plus cher parce que le transport des marchandises augmente mécaniquement le prix. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que la classe moyenne ne disparaisse pas, puisqu'on n'en arrive pas. Comment faire pour que les classes les plus défavorisées, les plus faibles, n'augmentent pas? Et comment faire pour que tous ces cadeaux fiscaux se traduisent par des réalités sur le terrain économique, à savoir la création de richesses, donc d'emplois? Je pense que la seule solution, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'embrouiller avec un macronien une fois par rapport à ça, la seule solution, c'est de créer massivement du travail, réindustrialiser le pays et faire en sorte que le travail puisse revenir ici pour augmenter les revenus de l'État et désendetter l'État. Le problème, c'est que l'État court après le désendettement sans qu'il y ait de revenus fiscaux. Donc, il tape de plus en plus vers le petit parce qu'il y a un principe en économie qui est basique. Il n'y a pas beaucoup de riches pour taxer, mais il y a beaucoup de pauvres qui rapportent plus d'argent.
Ray Chaibi. Bien résumé.
Dans cette histoire d'inflation et de pouvoir d'achat, malheureusement, les années se suivent et se ressemblent et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle. Si ce n'est qu'effectivement que l'effort doit être collectif, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus.
Mais on est parti pour sombrer.
Je suis assez d'accord là-dessus. Sauf que le problème, l'effort collectif, cette méthodologie était entendable il y a un an, deux ans, trois ans. Sauf qu'elle a de moins en moins, elle est acceptée de moins en moins par celles et ceux à qui on demande les efforts. Je pense notamment aux distributeurs, et on le voit bien avec l'essence. Et dernièrement, et ça me faisait sourire, parce que je repensais au débat qu'on a eu il y a quelques minutes sur la lasagne législative, on apprend qu'il semblerait, en tout cas, qu'il y ait une nouvelle loi qui soit en préparation, justement, pour lutter contre l'inflation, le pouvoir d'achat, qui serait, je crois, discutée à partir du 27 septembre. Là aussi, c'est-à-dire que... Alors, Ça a du bon, parce que si la méthode douce ne marche pas, est-ce qu'il faut légiférer? Bon, bah dans ce cas-là, je suis parfaitement d'accord, mais on est obligé de légiférer pour ça, là aussi, ça ouvre une autre question. Les lois qui ont été mises en place, parce que des lois sur la consommation, j'en entends parler depuis que je suis à l'université, donc ça remonte il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à quoi ça a servi alors qu'on les vote?
Bonne question, bonne grande question.
Est-ce que tout pourra se résoudre par la loi? J'y crois à moitié.
Et on finit avec Radouane Courac, justement, et son analyse.
On parlait tout à l'heure de TVA. Je pense que déjà l'un des premiers leviers, ce serait peut-être on en parle depuis des années, c'est une proposition de plusieurs partis politiques. La TVA sur les produits de première nécessité, c'est aberrant. On en rediscutait encore, je crois, il y a deux semaines sur cette antenne, notamment par exemple sur les protections hygiéniques. Aujourd'hui, il y a une précarité menstruelle en France. Sur tous les produits de première nécessité, je ne vois pas pourquoi ils sont toujours sujets à la TVA. L'autre chose, c'est là que je rejoindrai Raed tout à l'heure.
Que l'Espagne a supprimé la TVA pour un temps.
Oui,
c'est possible, absolument.
C'est absolument possible. Absolument. L'autre, c'est là où je rejoins Raed. Il parlait d'efforts collectifs. Aujourd'hui, il y a une chose qui marche plutôt bien, c'est les circuits courts. Okay. Moi, j'invite nos auditeurs à privilégier les circuits courts. Je ne fais pas de l'hypermarché washing. Mais si demain, tout le monde va acheter ses fruits et ses légumes chez le maraîcher, c'est directement chez le producteur. Non seulement ça permet de soutenir nos agriculteurs, nos pays. Je rappelle qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Et surtout, ça permet de réaliser de réelles économies. Car aujourd'hui, entre le prix d'une pomme en hypermarché et le prix d'une pomme chez le paysan, je vous invite à faire le test.
Minimum, quoi.
Bien sûr, je vous invite à faire le test. Elle sera meilleure et elle sera moins chère chez le paysan.
Vous divisez le prix par 3 parfois.
Non, oui, par 10, mais jusqu'à 10. Ça y est, les marges arrière, ils y vont. Hein.
Moi, j'ai eu l'occasion avec des fraisiers, des pommes. Non,
mais c'est vrai,
avec des nectarines, des pêches.
Tout à fait.
C'est les mêmes primeurs. Et il a raison, Radon Courac. C'est vrai, ils sont de meilleurs goûts.
Ça m'arrive.
C'est vrai, c'est vrai.
Il finit bien.
En beauté.
Juste un chiffre. Ce que je pensais, donc ce CICE qui a été introduit en Hollande, qui est perpétué sous un autre nom maintenant, ça coûte à peu près 20 milliards par an. Ces 20 milliards par an, si vous les affectez par ménage, ça fait 685 euros par ménage par an de pouvoir cacher.
Bravo pour le calcul.
Voilà.
Effectivement. Jérôme Bonnet, vous reviendrez, vous, je le sens. Il adore la radio, ça se voit, il adore la radio.
Il est bon.
La lasagne législative.
Vous aimez la radio, vous savez.
Là, on va pas jouer au millefeuille législatif.
Je suis
habité.
Vous êtes habité par le personnage.
Clairement.
Jérôme Bonnet, merci. Jérôme, journaliste. Merci à Gamal Abidine.
Merci, ma belle.
Porte-parole de MDC. Raïd Chaibi, président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Le journaliste à Opinion Internationale, il est là. Radon Kourak. À bientôt.
À bientôt.
À la réalisation, c'était le grand Solal. Merci. Milan Edman, Timesport, 20-21. Ensuite, c'est Vanessa, Confidence, 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.